Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Ravie de vous retrouver après ce temps estival. Et puis, nous nous retrouvons parce que la radio aussi redémarre dans un certain sens pour le début de septembre. Et alors, on va faire le lien entre l'avant et l'après, entre autrefois et maintenant, avec Christian Delors. Bonjour Christian Delors.
Bonjour Christiane.
Christian Delors, vous le connaissez bien, vous l'avez déjà entendu dans des émissions ici à Radio Alliance Plus. Et puis, sans doute, vous l'avez croisé ou vous avez même peut-être participé à un conseil d'administration, puisqu'il a été président de Radio Alliance Plus pendant, je crois, 14 ans.
Oui, à peu près.
À peu près. Il ne sait même plus trop lui-même, parce que ça a été un double septennat, il nous a dit une fois. Donc peut-être ça doit faire 14 ans, on va dire ça. Et puis, il a arrêté cette fonction au mois de juin dernier pour prendre sa retraite. Et nous l'avons fêté joyeusement tout de même, même si c'est un peu avec de la tristesse qu'il nous quitte, évidemment. Et pour lui, donc, il y a aussi une nouvelle phase de sa vie, en quelque sorte. Non pas sans la radio, parce que je ne pense pas qu'il nous quittera comme ça, mais sans cette fonction de président et sans le conseil d'administration. Mais on va revenir un peu en arrière, Christian Delors, si vous voulez bien.
D'accord, d'accord.
Voilà, pour essayer de savoir un petit peu qu'est-ce que vous faisiez avant la radio. C'est-à-dire, je crois que vous avez fait des études de théologie parce que vous êtes pasteur.
Oui.
C'était il y a bien longtemps, je pense.
Voilà, il y a pas mal de temps.
Voilà, aussi.
Quand vous avez dit que j'ai pris ma retraite, j'étais déjà à la retraite quand j'ai commencé la radio.
Voilà, d'accord.
C'était une deuxième retraite.
Oui. Donc, les études de théologie, c'était à l'Institut protestant de Montpellier?
Oui, à l'époque, on disait faculté de théologie, on ne disait pas encore Institut de théologie. Il y avait deux facultés qui n'étaient pas encore vraiment rassemblées.
D'accord.
La faculté de théologie de Montpellier et la faculté de théologie de Paris. Voilà.
Donc, vous étiez à Montpellier?
J'étais à la faculté de Montpellier.
Voilà.
Avec un certain nombre de Nîmois, d'ailleurs, que j'ai retrouvés ici, parce que le centre universitaire protestant qui hébergeait un certain nombre d'étudiants en théologie accueillait aussi des étudiants qui n'étaient pas forcément des théologiens, mais qui pouvaient être des étudiants en médecine, entre autres, et dont certains venaient de Nîmes.
Voilà. Donc, vous avez retrouvé du monde.
Voilà.
Donc, vous avez été pasteur dans différentes paroisses.
Oui, alors j'ai été pasteur dans pas mal de lieux différents. J'ai commencé d'abord dans l'est de la France, à Épinal, à Thaon-les-Vosges, pour précisément. Thaon-les-Vosges, c'est une dizaine de kilomètres d'Épinal. C'est là que j'ai été, à l'époque, on parlait de proposant. On n'était pas encore pasteur en titre, mais on était stagiaire en quelque sorte. Et ça s'est passé, donc c'était une année de stage à Thaon-les-Vosges. Et après, je suis allé à Besançon. Quelques années à Besançon, l'Est de la France, je ne connaissais pas du tout, c'était tout à fait nouveau pour moi quand on m'a envoyé là-bas à Épinal, Thaon-les-Vosges, un ami de mon père m'a dit « Oh, tu sais, moi, en 1914, j'ai traversé la Moselle à pied sec parce que c'était tellement gelé. » J'ai compris que c'est un pays très beau, mais évidemment très froid en hiver.
C'est pas le climat du Sud.
Et donc, après Épinal, Thaon-les-Vosges, je suis allé à Besançon, où je suis resté 3 ans, pasteur. Et là, le président de la Fédération protestante m'a insisté pour que je parte à Madagascar, parce que l'église pour laquelle je travaillais, l'église réformée de France, était membre de la CEVA, qui est la Communauté d'Églises en Mission, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. À l'époque, on disait Communauté évangélique d'action apostolique. Et cette communauté échangeait un certain nombre de pasteurs ou d'autres personnes. Et il y avait un poste vacant à Madagascar. Et on a estimé que c'était important que je puisse répondre à cette demande. Donc, nous sommes partis avec mon épouse à Madagascar, à Diego Suarez, ce qui est l'extrême nord de Madagascar. C'est une très, très belle région, avec une baie qui est, paraît-il, la deuxième baie après celle de Rio. Voilà. Et là, nous sommes restés quelques années à Diego Suarez, pour animateur régional pour différentes églises de cette région. De l'église qui s'appelait Église de Jésus-Christ à Madagascar, FJKM. Voilà.
D'accord, très bien. Il y a eu d'autres endroits où vous êtes allé après?
Oui, alors après 6 ans à Madagascar, je suis revenu. D'ailleurs, les postes commençaient à se malgachiser, c'est-à-dire à être de plus en plus occupés par des pasteurs malgaches. Et donc, nous sommes rentrés en France. Et avec un petit congé entre deux périodes. Et là, on nous a demandé de partir encore, mais cette fois-là, à Bangui, en République centrafricaine. D'accord. C'était, à l'époque, on me disait l'Empire centrafricain. C'était le moment où ça devenait chaud et difficile. Et là, donc, ils m'ont demandé de partir là-bas. Et j'étais donc pasteur à une église dont le nom est un peu curieux pour le protestantisme, c'est Église protestante du Christ-Roi. Enfin, c'était le nom de cette paroisse, qui est une paroisse de langue française et de style réformé. Parce qu'en République centrafricaine, beaucoup d'églises étaient d'inspiration évangélique et la langue parlée dans ces églises était essentiellement le sango, qui est la langue de ce pays. Mais l'église protestante du Christ-Roi est une église francophone qui avait été fondée par l'aumônerie militaire, je crois, à l'époque, bien longtemps avant moi. Voilà. Et là, nous y sommes restés que 3 ans. Nous avions convenu que nous ne resterions pas trop longtemps. C'est une période un peu compliquée parce que c'était l'avènement de Bokassa et sa chute, entre son avènement et sa chute, pratiquement. Donc, c'était une période un peu compliquée. Et nous sommes rentrés en France et là, on a cherché, je ne savais pas où j'irais. Et il s'est trouvé, alors vous savez, dans l'église réformée, la recherche de poste se fait en concertation avec les responsables plus souvent. Et il y avait un poste vacant dans la banlieue parisienne, à Sarcelles. Et bon, moi je ne connaissais pas du tout cette région, mais on m'a demandé d'aller occuper ce poste à Sarcelles, qui était un poste très original, qui avait été fondé par un pasteur Esposito Fares, qui était un grand artiste, et qui estimait que l'église devait être très ouverte, et le lieu de la paroisse, ça s'appelait le grenier de Sarcelles. C'était pas l'église protestante, c'était l'église réformée de France, mais le lieu de rassemblement, c'était le grenier de Sarcelles, avec toute la symbolique du grenier. Et il organisait, comme il était lui-même artiste et peintre, il organisait beaucoup de manifestations culturelles de divers types, des expositions de peinture, de sculpture, mais aussi beaucoup de théâtre, beaucoup de choses comme ça, et puis des cultes. Et quelquefois, il fallait cohabiter. Et donc, voilà, c'était une ville nouvelle encore. Et le lieu où siégeait l'église réformée était un bâtiment tout à fait moderne dans le centre de Sarcelles. Voilà, et là, nous sommes restés 6 ans à Sarcelles. Et là, de nouveau, alors je ne me rappelle plus comment s'est fait le changement, mais on m'a demandé d'occuper un poste au service protestant de mission, le DEFAP, qui a encore ce nom-là, qui était basé à Paris, au centre de Paris, au boulevard Arago, centre du boulevard Arago. Et le service protestant de mission, il s'agissait de m'occuper de l'animation missionnaire dans les paroisses. Essayer de faire connaître aux diverses paroisses de l'Église réformée de France qu'il y avait, que la mission n'était plus celle qu'elle était au XIXe siècle, mais qu'elle avait évolué, que la mission, c'était un échange, un échange entre les Églises du Nord et du Sud, et qu'il fallait pouvoir recevoir des gens du Sud dans les paroisses et aussi en envoyer, mais que l'échange devait être vraiment bipolaire. Là, je me suis occupé de ce travail pendant 8 ans, je crois, ou peut-être un peu moins, et occupé de ce poste d'animation. Et puis là, j'ai changé d'affectation, mais toujours au service protestant de mission. Je me suis occupé de l'accueil des boursiers. Parce que dans une des fonctions du DFAP, c'était l'accueil de personnes venant de tous les pays du monde, aussi bien d'Amérique latine que du Pacifique, que d'Europe parfois, justement d'églises membres de la CEVA, mais pas que, parfois des églises qui passaient par le conseil œcuménique pour envoyer des personnes en formation dans divers domaines, pas qu'en théologie. J'ai eu par exemple, je cite de mémoire, une personne qui était archéologue égyptienne et qui est restée voilà, un certain temps. Et il s'agissait d'accompagner ces personnes pour que leur séjour soit facile, enfin pas trop difficile en France. Une autre personne venait de
Oh, c'est assez lointain,
d'Amérique
tout ça,
latine.
Quand même.
Enfin, il y avait des médecins, il y avait des théologiens, il y avait des enseignants de diverses sortes.
Oui, c'était
sortes.
Très riche de rencontres, du
très
coup.
Très riche de rencontres. Ouais. Et l'idée, c'était de permettre à ces gens de faciliter leur séjour.
Ouais.
Et alors, c'était surtout vrai pour les jeunes de Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas encore décolonisée. Elle était encore moins il y a 30 ans. Et on a estimé à l'époque qu'il fallait absolument former les jeunes Kanaks et permettre qu'ils puissent accéder aux études universitaires. Donc, il y a eu tout un effort de recrutement de jeunes lycéens, de les envoyer ici, on disait la métropole, puisque la Nouvelle-Calédonie faisait partie de la France, et fait encore partie de la France. Et là, les Kanaks étaient complètement déboussolés parce qu'ils arrivaient d'un pays où il y a quelques centaines de milliers d'habitants et ils arrivaient dans Paris, découvraient absolument tout. Tout était nouveau, et ils étaient loin de chez eux. Et voilà, il s'agissait de les mettre aussi en relation avec les paroisses locales à travers la France.
Oui.
Voilà, c'est ce travail que j'ai effectué.
Ils ne sont pas trop perdus en arrivant.
Alors, c'était tout à fait oui, passionnant. Oui. Et puis, j'ai terminé mon ministère à partir de l'an 2000 à peu près, à Bourgoin-Jallieu, dans le Nord Isère. Là, la recherche s'était faite, tout mon ministère a été plus ou moins en relation avec l'étranger. Et quand on m'a proposé un poste, là, on m'a dit, mais tu sais, il y a des relations avec l'Allemagne, avec l'Italie, et... Donc voilà, je suis allé là-bas, c'est une paroisse très classique, mais effectivement avec une originalité, c'est qu'elle organisait régulièrement des échanges avec une église d'Allemagne et une église d'Italie qui est Riesi, en Sicile. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler de ce lieu. Et l'intérêt, c'est que l'église d'Allemagne avec laquelle cette paroisse est en relation, elle l'est toujours je crois, était l'église d'Allemagne, c'était une église près de Cologne, était elle-même en relation avec une église d'Allemagne de l'Est, d'ex-Allemagne de l'Est. Donc c'était une relation quadripartite, une paroisse de l'Allemagne de l'Ouest, très classique, un peu bourgeoise, une église de l'ancienne Allemagne de l'Est, et puis cette petite église d'Italie, et puis cette paroisse française. Donc il y avait vraiment une idée d'échange, de partage, pas énormément, mais d'échange entre paroisses différentes mais il n'y avait pas cette relation qu'il y a parfois entre Église française et Église d'Allemagne, de supériorité, de richesse et pauvreté, etc. On était à la fois, on était très différents et voilà.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'était... Quand on vous entend, Christian Delors, on voit que vous avez été en relation avec un nombre incalculable de personnes.
Oui,
et que c'est une grande richesse pour soi-même aussi, parce qu'on apprend beaucoup des autres, beaucoup d'autres pays. Et c'est peut-être, est-ce que c'est ça qui vous a amené parce qu'après, vous avez été donc, à la retraite et vous êtes venu ici directement.
Je suis venu directement à Nîmes au moment de ma retraite.
Oui.
Et voilà, bon, j'ai découvert un peu Nîmes, mais je ne connaissais pas du tout Nîmes, bien que nous soyons, je sois d'origine gardoise par mes parents, par mon père et mes grands-parents. Je connaissais Nîmes, mais juste pour les vacances, pour des petites périodes de vacances.
Oui.
Mais donc j'ai découvert un peu la ville de Nîmes, j'ai découvert les activités des paroisses de Nîmes. Et j'ai découvert qu'il y avait une radio et voilà, et c'était l'ancien président de la radio qui m'a demandé un jour de participer un peu. Donc j'ai suivi un peu cette radio, j'ai fait partie du conseil d'administration. Ils m'ont demandé aussi d'assurer une émission qui est un peu l'émission qui précède celle que je fais actuellement, Poussière et Granit.
D'accord. Voilà,
la formation sur la vie des églises.
On va parler de tout ça un peu plus en détail, de la radio, parce que ça a été un long temps pour vous et puis pour nous ici, animateurs ou participants au conseil d'administration. Et donc, avant cela, on va écouter une musique que vous avez choisie. Vous avez choisi quoi?
Alors, j'ai pris un morceau interprété par Jacques Loussier, qui aime beaucoup Bach et qui interprète Bach à sa façon. Et il interprète là un extrait de la cantate d'une cantate de l'Avent, Jésus que ma joie demeure.
Voilà. Merci beaucoup pour ce temps musical que vous nous offrez. Et nous allons l'écouter, puis nous revenons juste après ensemble. Vous êtes sur Radio Alliance Plus et vous écoutez en DAB+, peut-être, ou sur le podcast, sur notre site radioallianceplus.fr. Nous sommes avec Christian Delors, qui a été président de Radio Alliance Plus pendant plus de 14 ans, je crois. Il ne sait plus trop bien. Le temps ne lui a pas duré, apparemment. Et nous commençons à parler, après avoir parlé de vos fonctions précédentes, Christian Delors, nous commençons à parler de la radio. Alors peut-être première question, grande question, qu'est-ce que c'est la radio pour vous ?
La radio, c'est pour moi quelque chose que j'aime beaucoup depuis mon enfance. Peut-être parce que j'étais fasciné, parce que mes parents nous habitions en Madagascar, et mes parents aimaient bien la musique. Et je crois pour un anniversaire, ils ont reçu un poste de radio qui marchait avec une batterie, une grosse batterie de voiture. Et vous savez, il y avait l'œil magique et on écoutait les émissions en ondes courtes. C'était très mauvais, mais enfin on entendait. Ma mère aimait bien écouter de la musique là-dessus. Et donc voilà, ça m'amusait un peu. Et puis, plus tard, j'ai découvert qu'on pouvait fabriquer un petit poste soi-même, un poste à galène. On parlait d'un poste à galène. Hein, et j'ai regardé un peu comment on fabriquait ça. Je m'en suis fabriqué un. Et je trouvais très, très agréable de pouvoir moi-même écouter de la musique. Alors, ce n'était pas des stations lointaines, mais je crois que ça aurait ici, ça aurait très bien marché à Nîmes. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai passé du poste à galène à un poste à lampe, là aussi. J'ai fabriqué un poste à lampe, je me suis renseigné, j'ai écouté des conseils d'amis qui fabriquaient aussi des postes. Et voilà, donc c'est la radio, ça m'intéresse. Et puis j'aime beaucoup écouter la radio, donc je l'ai toujours écoutée quand j'étais en Afrique ou à Madagascar. Mais alors, évidemment, il fallait écouter sur ondes courtes aussi, avec des aléas. Ce n'était pas toujours très bonne qualité. Mais voilà, j'aimais bien écouter la radio. Et il s'est trouvé une fois qu'à Madagascar, on m'a demandé d'assurer un culte à la radio. J'étais pas encore pasteur en fonction parce que entre mes études et vraiment mes prises de fonction de pasteur, j'avais passé 2 ans comme, à l'époque, on les disait volontaires du service national. On disait d'ailleurs militaire détaché. C'était pas encore le service militaire, mais enfin, on était dans le civil. Et ayant fait des études de théologie, on m'a dit, le pasteur ne peut pas assurer le culte pendant l'été, est-ce que tu pourrais en faire un? Et donc, à Radio Tananarive, j'ai animé un culte à la radio. Je ne sais pas si c'est ce que ça valait, mais voilà.
Et donc, ici, donc vous avez commencé d'abord par faire des émissions et ensuite on vous a demandé d'être à la présidence.
C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. J'ai fait partie du conseil d'administration, avant même de faire des émissions, je crois.
Oui. Par rapport à, enfin, le rapport aux autres dans une émission, comme on ne voit pas les personnes, pour vous c'est un peu quelque chose que vous transmettez, c'est quelque chose que vous... Comment c'est votre rapport dans une émission, par exemple?
Je me vois en train d'écouter une émission.
D'accord.
Quand j'écoute une émission, j'imagine... Je ne vois pas forcément... On ne voit jamais le visage de la personne, mais il y a un timbre de voix, il y a un ton... Et je me suis dit, bon, ben voilà. Et puis, il y a un contenu, bien sûr. Il y a des contenus qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent moins. Et donc, là, c'était pour... Quand j'ai commencé à Radio Alliance Plus, c'était plutôt... Le conseil d'administration avait besoin de quelqu'un pour faire ce travail. Et donc... Là, je me disais, c'est intéressant, effectivement, de communiquer, de partager un peu ce qui se fait au niveau des églises.
Mmh. Et quand vous avez été président, donc quand vous avez commencé, comment est-ce que vous voyez ce rôle de président?
Un coordonnateur, essayer d'organiser un peu les choses. Alors, il y a la relation avec les employés, les personnes qui travaillent là. C'était pas tellement, je ne me suis pas tellement occupé du rôle de recruter, mais une fois que les gens étaient là, bien, il fallait s'assurer que les conditions dans lesquelles ils travaillent étaient convenables. Et faire ce qu'ils demandaient, parce que les techniciens ont des demandes par rapport à la manière de faire des émissions. Donc, il y a ce rapport avec les techniciens. Il y a le rapport aussi avec les auditeurs. Savoir qu'il faut faire en sorte que les émissions puissent être bien programmées au bon moment et peut-être rediffusées par Internet. Et ça, ça a été à l'époque, c'était assez compliqué. Il fallait faire ce qu'on appelle les podcasts. Il fallait les faire soi-même et c'était un peu compliqué. On n'avait pas le site internet était quand même très très modeste et très très rudimentaire. Mais enfin bon, on est parvenu à le faire. Donc relation avec le personnel, relation avec les auditeurs, les auditrices et faire en sorte que les émissions leur parviennent. Et puis bien sûr relation avec tous les producteurs et productrices, faire en sorte que les producteurs, productrices fassent le travail qu'on leur demande, écouter aussi leurs propositions, leurs suggestions. et parfois les freiner ou leur demander d'accélérer.
Oui, ou les encourager.
Voilà.
Voilà.
Oui, ce travail avec... Et puis alors tout le travail avec les... concrètement avec les personnes, les associations locales, parce que la radio, c'est une petite association qui forcément connaît bien, qui devrait connaître bien les associations qui l'entourent, puisque très souvent on communique, on partage les nouvelles, on partage les informations.
Oui. On n'est pas tout seul dans la radio, on rencontre beaucoup de monde, et puis c'est vraiment un métier de relation.
Oui,
par rapport à l'évolution de la radio, de quand vous êtes arrivé et quand vous partez.
Ah ben d'abord, les conditions matérielles sont infiniment meilleures depuis 2015. Avant 2015, alors, la Radio Alliance Plus, avant que j'arrive, a émis d'ailleurs, je crois, du Mont du Plan, peut-être de la. Là où il y a une maison de retraite maintenant. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu l'installation précédente.
D'accord.
Mais là, moi, l'installation que j'ai connue, je crois que c'était depuis 2006 ou 2008, par là, c'était à Pissevin, dans le quartier de Pissevin, au foyer de jeunes travailleurs. Mais nous étions au rez-de-chaussée d'un très grand immeuble, dans des conditions presque insalubres, parce qu'on est très, très réduite. Donc, quand on voulait se réunir, c'était vraiment compliqué. Et nous avons pu... en 2014, on a commencé à chercher. Et puis on nous a dit, il y a un appartement là, en-dessus du petit temple. La personne qui l'a occupé pendant des années, l'abandonne. Et donc, si vous voulez, vous pouvez vous y installer, mais il fallait tout refaire. Et donc, une différence de matériel d'installation vraiment énorme.
Oui. Et du matériel technique et de la...
Ça a évolué, ça, plus progressivement, mais ça a évolué aussi.
Oui, ça a beaucoup, ça a beaucoup apporté, c'est sûr, pour notre technicien et ceux qui sont passés avant aussi.
Oui.
Et pour les producteurs aussi, voilà. Est-ce qu'il y a, pour terminer, un moment particulier que vous voudriez nous partager sur ce vécu à la radio?
Il y aurait beaucoup de moments.
C'est sûr, ça va être difficile.
Un particulier, c'est un peu compliqué. Non, je crois que...
Ou une tonalité, quelque chose.
C'est la relation avec les personnes qui produisent des émissions. Ça se trouve toujours sympathique. On a eu plusieurs fois des rencontres à l'occasion de fêtes, pour Noël ou pour d'autres occasions. On s'est retrouvés avec des gens qui viennent de milieux très divers, qui ne se connaissent pas forcément. Et on a eu de très bons échanges ici au studio, dans la petite cour... comme ailleurs, en bas, à la maison du protestantisme. Ça, c'est toujours des très bons moments.
Nous serons toujours heureux de vous revoir, Christian Delor, ici,
bien.
Dans notre studio, puis ailleurs. Et puis peut-être après, dans quelques temps, il y aura encore d'autres émissions, d'autres occasions.
On verra.
Je tiens aussi à dire que vous êtes occupé, et vous en occupez toujours, de la diffusion des cultes le dimanche.
Voilà. Il s'agit de recruter des prédicatrices et des prédicateurs.
Pas toujours simple. Donc, merci beaucoup pour votre participation.
Merci à elle et à eux de répondre à nos demandes.
Merci à vous, Christian Delors, pour
merci.
Tout ce temps que vous
merci,
nous avez
Christiane.
Donné à la radio. Oui. Et au revoir.
C'est un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
On se dit à bientôt.